Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour, leur voilà qui fait parler de lui. Il nous avait manqué, beaucoup manqué au début, alors quand il s'était pointé, on l'avait embrassé à pleine bouche. Mais là, depuis quelque temps, on sent pointer le désamour. Les masques tombent, l'été déconfiné est venu, les masques tombent malgré la menace du virus. On le sent bien hein, au boulot, dans le métro, les bouches se montrent à nouveau. Et personne ici pour nous rappeler à l'ordre. Aux États-Unis par exemple, ils ont le comédien Tom Hanks et ses messages de prévention.
Wear a mask, wash your hands, social distance. If you can't do that, I don't have much respect.
Portez un masque, lavez-vous les mains, respectez la distance. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, je n'ai pas beaucoup de respect pour vous. Aux États-Unis, Tom Hanks, ici en France, on a Renaud. Par surprise, le chanteur a posté un nouveau titre hier soir, ça s'appelle Corona Song. Le refrain fait ça.
Corona virus, connard de virus, Corona virus.
Aïe, 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 aïe. Finalement, nouvelle consigne, portez le masque et parfois, n'oubliez pas les boules caisses. Oh, c'est pas sympa, ça. Les invités de Culture Média ce matin, Passepartout aussi va apparaître masqué, Fort Boyard revient comme si de rien n'était samedi soir sur France 2. Pas de combat debout cette année et respect des gestes barrières. Le présentateur du jeu phare de l'été, Olivier Mine, vient nous raconter. Le fait média du jour, se moquer des clichés journalistiques, c'est plutôt sain. Sur internet, Yann Guégan compile les expressions toutes faites de la presse. Alors nous allons tirer la sonnette d'alarme, ça risque bien de défrayer la chronique. Affaire à suivre. De son côté, Anaëlle Godefroy, oui, s'amuse dans des vidéos du ton des commentaires télé.
YouTube, c'est la nouvelle plateforme multimédia qui rend dingue tous les adolescents armés d'un câble Wi-Fi. Ils passent leur temps sur leur smartphone.
Une voix off qui risque bien de faire grincer des dents. L'invité culture à partir de 10h s'appelle Grand Corps Malade. Le slammer sort un album de duo avec des dames. À la rentrée, le premier duo avec Camille Lelouch, Mais je t'aime, dépasse déjà les 10 millions de vues sur YouTube. Culture Média est ouvert tout l'été, 9h, 11h. Et ça commence maintenant. Sympa ce nouvel habillage. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, mettez peut-être pas tout de suite les boules caisses. Bonjour à tous.
C'était méchant, non?
C'était dit en tout
cas. Voilà, c'est dit. Alors place au journal des médias, Martin. Qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Coca-Cola ou Levi's qui n'en peuvent plus de Facebook, Disney qui n'aime plus la voix de ses Simpsons et des fans de Mongeville au bord des larmes.
Mais d'abord...
Les audiences,
oui.
Et hier, tout le monde score très moyen pour tout le monde. TF1 première avec sa série Prodigal Son, 3 millions de téléspectateurs. Derrière, France 2 avec sa série L'Ami prodigieuse, 2 millions de téléspectateurs. Et enfin, pour fermer la marche, France 3 avec Le Monde de Jamy, 2 millions de téléspectateurs.
Culture Média.
Et l'on commence ce journal des médias, Martin, avec Facebook, de plus en plus boycotté par les grandes marques.
Coca-Cola, Adidas, Levi's, Starbucks, Honda, Ben & Jerry's. J'ai fait le calcul, Pascal, il faudrait 58 minutes et 27 secondes pour égrener le nom de toutes ces grandes marques.
Ah mais vous êtes chronométré pendant 58 minutes.
J'ai chronométré 58 minutes et 27 secondes, c'est vrai. Pour égrener le nom de toutes ces grandes marques dont vous ne verrez plus de pub sur votre mur Facebook. 1100 marques qui disent que Facebook laisse passer trop de messages haineux, racistes, homophobes ou encore des fake news. Elle demande aux géants américains de se réveiller. En attendant, plus un seul dollar ne sera investi sur le site.
Et pourtant, Mark Zuckerberg a rencontré ces dernières heures des associations américaines de lutte contre le racisme.
Ah, depuis la mort de George Floyd, en fait, Facebook est dans le viseur des associations antiracistes. Ce sont elles qui ont convaincu ces grandes marques de stopper leur campagne de pub. Cette semaine, c'était la réunion de la dernière chance avec Mark Zuckerberg, le patron du réseau social. Mais à la sortie de la réunion, on a vu ces associations faire la grimace. Leurs revendications n'ont pas été entendues. Parmi leurs demandes, pourtant simples finalement, le retrait notamment de tous les groupes faisant l'éloge de la suprématie blanche ou clairement antisémite. Chez Facebook, on vous explique qu'on a déjà beaucoup, beaucoup fait. 15 000 personnes sont chargées par exemple de modérer les contenus.
Alors que Martin, Twitter ou Google ont été salués ces derniers jours à l'inverse pour leur prise de conscience, Google vient notamment de faire un pas important dans la lutte contre la haine sur Internet.
Oui, notamment en France, YouTube, propriété de Google, vient purement et simplement de fermer les deux chaînes YouTube d'Alain Soral. Vous savez, cet essayiste antisémite proche de Dieudonné, il avait tout de même près de 200 000 abonnés sur ses deux chaînes, c'est vraiment beaucoup. Et Alain Soral ne pourra pas recommencer. YouTube France précise qu'il ne pourra plus du tout recréer de chaîne en son nom.
Dans ce contexte d'ailleurs où les médias cherchent à être plus responsables et éthiques, voici Disney qui vient de surprendre tout le monde.
Disney exige que plusieurs de ses personnages des Simpsons changent de voix. Les acteurs blancs dans les Simpsons ne doubleront plus de personnages noirs dans la série d'animation. Et voilà ce que vous n'entendrez plus.
Well, that just leaves Bart.
Don't forget Maggie.
Oh, I got her when your head's returned. Got her good.
Cette voix et ce personnage, c'est celui du docteur Hibbert. Vous savez, c'est ce médecin afro-américain dans les Simpsons, un peu coincé, en charge de la santé d'Homer et de Marge. Même chose pour le célèbre épicier de la série d'origine indienne qui va donc changer de voix. Je vais essayer de prononcer son nom, Apunaasepi Mapetilon. Vous ne l'entendrez plus dans les Simpsons de la même façon.
10 minutes de répétition pour ça. On continue avec les fans de la série policière Mongeville qui ne baissent pas les armes.
Il y a une pétition, carrément une pétition pour le maintien de la célèbre série de France 3. Elle vient de dépasser cette pétition, les 17 880 signataires. On a regardé il y a quelques minutes. Alors tous ces signataires ont très peur de voir leur samedi soir ruiné par la volonté de France 3 d'arrêter leur série préférée. Et ils sont nombreux, Pascal, chaque samedi soir. En avril dernier, par exemple, 6 millions de téléspectateurs sont devant France 3. Un record absolu. La chaîne est même devant TF1. Sauf que voilà, malgré le succès phénoménal, la patronne de la fiction de France 3, on ne comprend pas très bien pourquoi, a redit il y a quelques jours qu'elle voulait renouveler les marques. Francis Perrin, star de la série, est à notre micro.
C'est un renouvellement des marques. Alors, j'ignorais complètement que j'étais une lessive et peut-être que j'ai pas lavé assez blanc. Je ne sais pas. Voilà. Mais non, c'est incompréhensible. Quoi, voilà. Mais c'est un mépris, je trouve, des spectateurs, des 4 et 5 millions de spectateurs qui sont là chaque samedi à regarder Mongeville depuis maintenant, enfin plusieurs années, et un mépris des comédiens, mais ça c'est pas nouveau pour les chaînes de télé. Hein.
Le tournage des deux épisodes qui s'achèvent demain à Lyon pourrait bien être le dernier.
Et l'on termine, Martin, avec le magazine Têtu qui s'associe avec une plateforme musicale pour chanter l'été.
Alors cette plateforme, c'est Radio, c'est Radio avec plusieurs O. C'est à la fois un jukebox et une machine à remonter le temps. Alors je vous explique le concept. Vous choisissez un pays dans le monde, n'importe lequel. Vous choisissez une décennie entre 1900 et aujourd'hui. Et Radio vous emmène en voyage en vous faisant vivre ce qu'on y écoutait à ce moment-là. Alors Pascal, on fait le test. Une décennie, un pays au hasard, allez-y.
Disons Jamaïque, années 90.
Alors attention, jukebox. Reconnu Nina Sol, Sleeping Trees cet été. Alors Radio convité, tu sous le parasol en créant une playlist LGBT. Vous avez vu Radio, j'essaie bien de le dire,
vous arrivez
mieux que moi.
Non.
C'est soit des chanteuses et des chanteurs militants ou bien des titres qui sont comme une ode à la tolérance et à la liberté. Alors j'essaie à mon tour si vous le voulez bien. Australie, 2020, le tout en maillot de bain têtu, ça donne ça. Voilà Pascal, de quoi bien commencer l'été, c'est Tame Impala et It Is True, c'est sur Radio Made in Têtu.
Génial, merci Martin Cangelosi, à demain. Musique, mon titre du matin pourrait bien vous rester une bonne partie de la journée dans la tête, c'est cadeau.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête pour une une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. T'allais te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Angèle sur Europe 1, balance ton quoi, veut-elle dire balance ton Renault? Oh, vous écoutez Culture Média sur Europe 1. À suivre, le fait média du jour. Pourquoi tellement de clichés journalistiques? Eh bien, l'avenir nous le dira.
Eurorépar. Redémarrer à prix malin avec Eurorépar. Jusqu'au 31 août, le kit pack sécurité et hygiène 20 points de contrôle est à partir de 114 euros dans les garages Eurorépar participants. Et en plus, votre garage Eurorépar vous offre la désinfection de votre véhicule. Eurorépar, pour redémarrer à prix malin. Eurorépar, plus de 1400 garages. Entretien et réparation de véhicules toutes marques. Modalités sur eurorépar.fr. Eurorépar.
Carrefour. Parce qu'à la rentrée, les envies des enfants ne sont pas toujours compatibles avec le budget des parents, nos designers Carrefour ont inventé le premier sac à dos personnalisable avec 39 faces interchangeables. Comme ça, vous pouvez changer de cartable tous les ans sans racheter un nouveau cartable. Découvrez-le dès maintenant et en exclusivité chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive à seulement 15 euros et garantie 5 ans. Seulement 15 euros avec un choix de 39 faces différentes, voilà un sac à dos qui va mettre tout le monde d'accord, les parents et les enfants. Carrefour.
Prix incluant un sac à dos et une face, détails produits magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr.
Vous êtes sur la route des vacances, toute la famille est là, réunie, à vous la belle vie. Vous avez remarqué, comme les autres conducteurs vous regardent au volant de votre Astra neuve, c'est agréable de rouler dans une Astra neuve. Hein. Partir en vacances, c'est bien. Partir au volant d'une Opel neuve, c'est encore mieux. Du 6 au 18 juillet, découvrez les offres prêts à partir sur nos véhicules en stock et partez au volant d'une Opel Astra neuve à partir de 129 euros par mois.
Location longue durée 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000 euros. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Bank et selon stock disponible. Détails sur opel.fr.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
À chacun ses obsessions, la sienne consiste à traquer les clichés journalistiques, ces expressions toutes faites qui font des petits dans les médias. Tiens, en voilà une. À les comptabiliser aussi, parce que les clichés veulent dire quelque chose. Bonjour Yann Guégan.
Bonjour.
Vous êtes vous-même journaliste, vous êtes actuellement chargé de l'innovation éditoriale chez Contexte. C'est quoi Contexte?
Alors, Contexte est un site d'information sur les politiques publiques françaises et européennes à destination des professionnels. C'est un site très sérieux.
Oui, dites donc. Vous avez besoin un petit peu de vous aérer parfois.
Exactement. J'ai profité du confinement pour travailler sur des projets un peu plus ludiques.
Ça ne date pas d'hier, hein, votre obsession pour les clichés. Maintenant, quand je parle, j'ai l'impression de produire un cliché à chaque phrase.
C'est horrible.
C'est horrible. Hein, une fois qu'on a ça en ligne de mire, en voilà un autre. Ça date de quand?
Ça fait une dizaine d'années, en fait. J'avais commencé à travailler là-dessus quand j'étais à Rue 89. Il y avait à l'époque un des fondateurs de Rue 89, Laurent Mauriac, qui était aussi un grand chasseur de clichés devant l'éternel. Voilà, celui-là, c'est cadeau.
Ouais, merci, je prends.
Voilà. Et Laurent Mauriac, il partageait cette petite manie qui est de chasser les clichés dans les articles qu'il relisait. Et du coup, à l'époque, j'avais fait un petit robot sur Twitter qui détectait ces formules toutes faites et balançait un peu le média qui avait comme ça utilisé ce petit raccourci linguistique. Parce que moi, ce que j'ai appris en école de journalisme et dans ma carrière, c'est qu'il faut éviter d'écrire comme ça. C'est pas très élégant, c'est un peu bateau. Et voilà, donc j'ai repris ça plus récemment.
Oui, pourquoi vous êtes retourné? Parce que 10 ans après, vous y retournez et puis les technologies ont évolué. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'était pendant le confinement? Non, c'était avant le confinement.
Un petit peu avant le confinement, mais j'ai beaucoup avancé pendant le confinement. Comme beaucoup de nos Français, j'ai eu du temps devant moi. J'en ai profité. Et en fait, ouais, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que j'étais capable de faire maintenant que j'ai appris beaucoup de nouvelles techniques et de nouveaux formats, nouvelles visualisations de données. À l'époque, il y a 10 ans, on commençait juste à découvrir ce qu'est le data journalisme et la data visualisation. Donc l'idée d'utiliser le journalisme, non pas avec des interviews ou des documents, mais avec des tableaux de données, en l'occurrence là, des listes de clichés. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une série d'infographies avec ça. Et puis au bout de quelques temps, je me suis dit, ça serait bien d'aller un petit peu plus loin et de savoir pourquoi justement on utilise ces formules toutes faites pour aller au-delà de simplement du comptage un peu rigolo et puis de l'inventaire à la Prévert.
Alors on va arriver à l'explication possible, plausible, mais vous êtes armé maintenant d'un algorithme, c'est ça, qui traque les clichés? Comment ça se passe? Comment les repérez-vous?
Alors ça se base sur Google Actualité, puisque la plupart des médias français sont indexés par Google Actualité. Et donc on peut mener des recherches automatisées sur ce service. Et aller sortir comme ça tous les articles qui contiennent une expression cliché. Donc j'en ai à peu près 100 que je...
Donc vous tenez le classement sur votre site. Où est-ce qu'on trouve ça? On va le dire tout de suite, on le redira.
Sur danmonlabo.com, c'est mon site personnel.
Voilà, dans monlabo.com, c'est le sien, mais voilà, je le répète. Vous tenez le classement. D'abord, en disant les clichés ont évolué, ou par définition, les clichés demeurent, ce sont les mêmes qui reviennent?
Mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça reste la même. La cerise sur le gâteau était déjà bien classée il y a 10 ans, l'affaire à suivre aussi. Alors j'en ai rajouté quelques nouveaux, mais...
C'est quoi les nouveaux en 10 ans qui sont apparus?
Alors j'ai comme ça de tête, je vais pas pouvoir sortir les exemples. Mais c'est assez intéressant que ce soit stable. Les linguistes que j'ai interrogés m'ont expliqué que c'est justement ce qui fait la force du cliché, c'est leur grande stabilité. On va dire une cerise sur le gâteau, par exemple. On ne va jamais dire des cerises sur le gâteau ou une cerise sur des gâteaux. Et l'avantage, comme ça, c'est qu'on est sûr de se faire comprendre à un public large, pas forcément très éduqué d'ailleurs, et on va résumer avec une image forte des idées complexes.
Alors j'ai une petite liste là, affaire à suivre, tirer son épingle du jeu, même son de cloche, défrayer la chronique, la fameuse cerise sur le gâteau, faire grincer des dents, le vent en poupe, tirer le signal d'alarme. Est-ce que c'est si grave que ça?
Eh bien non, c'est justement ce que l'échange avec des chercheurs m'a appris, c'est que comme les clichés sont assez pratiques pour communiquer, d'ailleurs à l'oral on les utilise plus facilement qu'à l'écrit, sans complexe, les chasser c'est pas forcément une bonne idée, ça peut aussi créer une distance avec le lecteur, puisqu'on le prive de ces éléments de langage assez simples, sur lesquels il peut se raccrocher pour comprendre des idées abstraites, en fait.
Mais peut-être que les linguistes que vous avez consultés vous disent aussi que ça marque une pauvreté du langage, ils sont sensibles à cet argument-là?
Voilà, ils sont partagés, on sent une petite tension, parce qu'il peut, d'un côté, il faut bien reconnaître, analyser la langue telle qu'elle se parle, et les médias tels qu'ils écrivent, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit jugement de valeur, c'est normal, c'est comme ça avec le langage, on analyse toujours un peu la façon dont parlent les autres, on les juge aussi par cette façon dont ils parlent. Et du coup, on peut aussi noter un appauvrissement. Si on ne parle que par cliché, certes, on se fait comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait comprendre finalement? Est-ce qu'on fait comprendre vraiment des idées importantes dans un discours, dans un exposé journalistique? On n'est pas sûr de ça.
Peut-être qu'à la sortie des écoles de journalisme, on reçoit une petite mallette avec dedans des expressions toutes faites. Peut-être.
Je pense qu'à une bonne école de journalisme, on apprend plutôt à les éviter. Mais après, il y a les conditions de travail dans la profession qui fait qu'on doit rédiger vite. Certains journalistes doivent écrire beaucoup dans la journée.
Donc c'est utile.
Et voilà, c'est pratique et comme ça, ils vont plus vite.
Vous allez continuer à compiler les clichés ?
Ah là, mon script le fait pour moi tous les matins et tous les soirs. Il fait... Mais je vais continuer à peaufiner ça et puis voir ce qu'on peut apprendre.
Mm-mm. Merci Yann Guégan. On va aller voir ça sur dansmonlabo.com. Restez encore un petit peu, s'il vous plaît, parce que cerise sur le gâteau, on a la version sonore de l'histoire. Annaëlle Godefoy sait parler en langage commentaire de documentaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
À chacun ses obsessions, la suite. Là, on est proche du TOC en réalité. Après Yann Guégan qui traque les clichés de la presse écrite, voici Annaëlle Godefoy. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors, c'est plus fort que vous. Vous êtes là, dans la vie, normal, tout va bien. Et puis d'un seul coup, vous êtes possédée par un ton, Annaëlle. Que se passe-t-il ?
C'est ça. Eh ben, je prends ma voix de journaliste.
Allez-y.
Bonjour Pascal. Bienvenue sur Europe 1, dans l'émission Culture Média de 9h à 11h.
Vous l'avez bien, vous le possédez parfaitement. Et ça peut vous reprendre à tout moment dans la vie.
Ah ouais, n'importe quand, vraiment.
Le ton, on a reconnu, enfin c'est bizarre parce que le ton que vous venez de formuler là à l'instant, on le connaît tous, hein, quand on regarde des sujets à la télé, on l'a, mais personne, peut-être avant vous, ne l'avait chopé aussi bien. Comment c'est venu cette histoire ?
Bah, je sais pas vraiment, je pense que j'ai... Bon, je regardais les infos, le JT avec mes parents, puis je me suis dit, c'est quand même bizarre cette façon de parler, puis je sais pas, j'ai essayé d'imiter, et j'y arrivais pas trop mal, quoi. Donc après j'en ai profité pour faire des parodies et tout ça.
Oui, vous avez posté pendant le confinement surtout hein, des vidéos assez drôles, il y a même des tutos en fait, vous enseignez comment parler le M6 en gros, c'est ça ?
En gros c'est à peu près ça, ouais.
Alors, comment fait-on ? C'est d'abord une question d'intonation. Vous pouvez nous donner un petit cours ?
Ouais, alors moi, ce que je dis, c'est vraiment... faut pas, ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'il ne faut pas avoir d'âme, dans le sens où il faut vraiment être très neutre, pas de changement de tonalité, quoi. C'est vraiment très brut. Et faire beaucoup de pauses dans ses phrases à des moments pas forcément opportuns.
Ouais, et l'intonation, ça donne quoi ? Parce que c'est musical, tout ça.
Oui, bah alors après, je saurais pas trop expliquer, mais c'est vraiment parler comme ça, faire des pauses, et continuer. Enfin, voilà, je ne saurais pas expliquer plus, mais en fait, voilà, c'est venu tout seul.
Oui, c'est ça, c'est tindindindindindin, tindindindindin.
Exactement.
Hein, c'est la fin qui est importante quand même, qui reste un petit peu en l'air. Des mots-clés, des sujets éculés aussi, on peut le dire.
Mm-hmm. Ouais, souvent les mêmes sujets qui reviennent, être un peu clichés. Les jeunes, les vacances, enfin voilà... tous ces sujets, et puis vraiment être cliché dans tout ce qu'on raconte, quoi.
Mmh. On est en studio avec Yann Guégan, je ne sais pas si vous avez entendu, juste avant vous, lui, il traque surtout dans la presse écrite, Yann, hein, les clichés journalistiques. Vous l'aviez remarqué, cette intonation ?
Oui, alors quand j'étais étudiant en journalisme, on m'avait appris, en fait, que ça venait d'une radio d'information continue. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire le nom.
Moi, si, on a le droit.
Voilà. Bon, à l'époque, on disait que c'était la faute à France Info. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier. Parce que France Info s'était lancé, il y avait beaucoup d'antennes à remplir, parce que c'était la première fois qu'on faisait de l'information continue. Et du coup, bah, il fallait aller vite là aussi. Et on avait ce petit ton, cette petite musique de fin de phrase, ta 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 ta. Et tout cela restera une affaire à suivre.
Ouais, il me semble quand même que c'est plus à la télé, Annaëlle, vous en pensez quoi ?
Oui, dans les reportages télé plutôt, les JT, tout ça. Enfin, oui, c'est vraiment à la télé, moi, que j'ai remarqué ce tic de...
Ouais, on m'avait expliqué que c'était né à France Info, et puis après, ça s'est répandu justement partout, y compris à la télé. Mais il faudrait demander à des historiens des médias.
Alors Yann Guégan, est-ce qu'il y a un parallèle là, entre ce ton plaqué, quand même, et les clichés dans les papiers, les titres, la presse écrite ? Est-ce que c'est la même démarche, le même dysfonctionnement, en tout cas ?
C'est le même phénomène, je pense.
C'est-à-dire, c'est quoi ce phénomène ?
En fait, je veux revenir à l'apprentissage aussi des journalistes, parce que c'est intéressant de partir de la base. Et on m'avait expliqué, moi, parce que j'avais fait aussi un petit peu de radio, m'avait dit, attention, ne pas tomber justement dans ces tons un peu formatés. Et à l'époque, on disait, par exemple, regardez quelqu'un comme Pascal Clark, elle arrive à échapper à ce type de tic, elle arrive à avoir sa propre voix. Puis en fait, quand on commence le métier, souvent dans des contextes un petit peu précaires, des CDD, des stages, on a besoin d'avoir vite une voix posée qui passe au micro, à la télé ou à la radio. On a besoin que les commentaires sur image soient propres. Et c'est là qu'on va tomber dans des tics pour être efficace et pour que ça passe, quoi.
Annaëlle Godefoy, il se trouve que vous travaillez dans une radio, vous ?
Oui.
Vous travaillez à RTL2. Est-ce qu'il y a aussi des intonations toutes faites, disons, dans les radios musicales ?
Non, je dirais pas ça. Pour le coup, c'est vraiment différent. Moi, je suis sur le morning, du coup. C'est vraiment un esprit naturel. Donc, non, moi, je dirais pas qu'il y ait des intonations comme ça, en tout cas dans cette émission.
Qu'allez-vous faire de tout ça et du succès de vos vidéos ?
Alors, du coup, là, moi, j'étais assistante. Enfin, je suis toujours assistante sur le morning et je vais passer chroniqueuse et auteur du même morning à la rentrée.
Oh.
Donc, d'ici un mois et demi à peu près. Merci beaucoup. Et à côté, bah, je continue de faire des vidéos sur Instagram, tout ça pour rire, quoi.
Vous pourriez peut-être vous attaquer, je ne sais pas, au langage des politiques, aux chanteurs aux promos, aux footballeurs à la sortie d'un match. Vous avez un boulevard devant vous, non ?
Tout à fait. Ah bah là, oui, c'est vraiment, j'ai tous les sujets possibles, donc avec grand plaisir.
Ouais. Évitez le tout à fait, peut-être, non ? C'est un peu cliché,
c'est
tout
vrai.
À fait.
Non,
on est entouré de clichés, là. Oui. Merci à vous, Anaëlle.
Merci beaucoup.
Je vous laisse retourner travailler dans votre radio, Anaëlle Godefroy. Yann Guégan, merci aussi. Traqueur
merci.
De clichés, vous continuez, hein ?
Oui.
Bon, bah parfait. On prendra de nouvelles de temps en temps. Oh là 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 ! J'ai 2 minutes 30 devant moi pour tenter de décrocher une clé. Le présentateur de Fort Boyard, Olivier Mine, arrive masqué. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Eh bien non, le coronavirus n'aura pas eu la peau de Fort Boyard. Samedi soir, vous verrez bel et bien Passepartout et ses clés, le père Fouras et ses énigmes, Félindra et ses tigres. Tout juste quelques masques ont-ils fait leur apparition sur le fort. Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup de passer par le studio de Culture Média.
Merci à vous.
La 31e saison de Fort Boyard démarre samedi. Est-on passé tout près de son annulation ?
Oui, on peut le dire. En effet, d'abord parce qu'on était dans le flou le plus complet sur la situation sanitaire de la France et comment tout cela allait traîner jusqu'à l'été. Et dans ce cas, si on avait eu un déconfinement uniquement juillet, c'était donc impossible d'envisager un tournage. Et puis au-delà de ça, quels auraient été, même avec un déconfinement comme celui qu'on a vécu, quelles allaient être les conditions sanitaires pour pouvoir envisager un nouveau tournage ? Nous ne le savions pas encore en mai. Et donc c'est vrai que c'est très rapidement, une fois qu'on a su qu'il était possible d'envisager un tournage comme celui du Fort, qu'on a tout mis en marche. Ça a été rapide au presto.
S'il y avait eu annulation, les dégâts économiques auraient été importants. Hein. C'est vraiment un truc lourd, Fort Boyard, pour la chaîne, pour la boîte de prod, pour la région aussi.
Pour la région également. C'est vrai que Fort Boyard, ça n'est pas qu'une émission de jeu, ça n'est pas qu'un divertissement. C'est encore autre chose. C'est un objet hybride de télévision. Et comme l'a dit d'ailleurs Alexia Laroche-Joubert, qui préside aux destinées d'ALP aujourd'hui... L'annulation du jeu aurait entraîné, par effet domino, toute une série de très gros problèmes. D'abord, la fermeture d'Adventure Line Productions, certainement, ou en tout cas, possiblement. Et puis, tout ce qui avait trait aussi à l'attractivité. Alors, heureusement, la Charente-Maritime n'a pas que Fort Boyard pour attirer les gens, bien sûr. Mais c'est un peu la Tour Eiffel, quand même, de la Charente.
Ouais.
Et donc, voilà. Donc, tout ça faisait qu'il y avait de grosses angoisses, mais... Tout est derrière nous maintenant.
Mmh. À quelle date ça s'est décidé ? On y va, on le fait ?
Ça s'est décidé vers le 20 mai, quelque chose comme ça. Mmh. Oui, on a eu à peine 3 semaines, même pas 3 semaines, pour ouvrir le fort. Ce qu'on appelle ouvrir le fort, c'est-à-dire en fait le remettre en état de marche, remettre les câbles électriques, parce que tout est déshabillé chaque année, parce que évidemment l'air marin est trop corrosif. Donc on a été, c'était une course-poursuite.
Alors 11 émissions, ça y est, sont en boîte pour l'été.
Oui.
Le dernier tournage n'est pas si loin, le 26
non.
juin. Vous, le présentateur de Fort Boyard, est-ce que vous avez senti la différence fatalement sur le tournage ? C'était plus loin, ça va encore, plus masqué, plus testé ?
Sincèrement, sorti du fait qu'en effet, nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, sorti du fait que nous portions des masques tous pour le voyage entre la Terre et le fort, et le fait que les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée, ce qui n'était pas le cas de votre serviteur, parce que évidemment devant la caméra, c'était compliqué d'animer masqué pour tout le programme, tout comme d'ailleurs les candidats. Les candidats arrivent masqués dans le programme, ça dure quelques secondes, et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leur masque, et puis ainsi on peut jouer, puisque chacun partira dans un point ou l'autre du fort, accompagné seulement par Passepartout, qui est masqué. Donc en gros, on a suivi à la lettre.
C'est en plein air, Fort Boyard. On sait maintenant que, enfin on sait, on croit savoir qu'en plein air, ça va.
Ça va un peu mieux. Cela dit, il y a plein de séquences qui se jouent à l'intérieur des cellules. Ces séquences-là se font en solo. Et quand elles sont en duo, dans ce cas-là, les candidats se remasquent ou portent des visières. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que nous avons été très vigilants avec la préfecture pour que tout soit, soit au cordeau par rapport à ces exigences. Ouais.
Ça a créé un petit climat. Est-ce que ça a aussi apporté des choses? Parfois, les contraintes produisent des effets étonnants.
C'est vrai. Et ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que dans la capacité qu'ont eu les candidats entre eux à jouer, à s'entraider, à s'encourager, tout ça a été sans doute démultiplié parce que chaque fois, l'un ou l'autre partait seul. Vous le savez bien, un effet de groupe a toujours plus de force, d'impact sur le développement d'une énergie, sur le courage que l'on peut avoir à dépasser ses limites. Ici, c'était moins le cas. Ça aurait pu être moins le cas, je reprends ce que j'étais en train de dire, parce que ça ne fut pas le cas. La capacité qu'ils ont tous eu à s'entourer différemment a été très bénéfique et a, j'allais dire, participé davantage encore à l'esprit du Fort Boyard, qui est le fait que rien ne peut se faire si nous ne sommes pas ensemble.
Alors Olivier Mine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la première émission de samedi soir? Alors il y a le chouchou de Koh-Lanta, Claude. Il s'est blessé, il paraît.
Il paraît.
Comment ça, il paraît? Vous ne savez pas?
Si, bien sûr que je sais.
Quoi, vous allez
là.
Faire des mystères sur Fort Boyard?
Non, je ne vais pas commencer. Vous savez bien, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas de cette espèce-là. Mais non, il s'est blessé, mais sincèrement, légèrement. Bon. Claude, d'abord, est quelqu'un qui est résistant, au-delà de ça. Mais il y a le fait que la blessure n'était pas majeure. On essaie d'ailleurs au maximum que les blessures ne soient pas majeures. Et quand elles arrivent, ce qui fut le cas pour Claude, très rapidement, le médecin a checké et il a pu continuer à faire le programme. Donc, en effet, il y a Claude qui est un aventurier de Koh-Lanta emblématique et qui s'est montré à la hauteur de de sa réputation.
Donc il y a aussi Tom Leb qui a failli faire l'Eurovision et puis il y a Miss France qui a subi un incendie dans son immeuble récemment.
J'ai appris ça en effet.
C'est bien parti votre affaire.
on ne pourrait pas rêver meilleur teaser finalement pour cette première.
Est-ce que cette 31e édition a quand même un goût particulier, Olivier Mine, vous le sentez bien, c'est vrai, il n'y a pas eu de Festival de Cannes cette année, Roland-Garros et le Tour de France, c'est pour plus tard, on a besoin de repères dans la vie... Générique.
Demain soir, le grand vaisseau de pierre revient en force.
Le Père Foix et sa troupe sont donc prêts au combat, car ils auront face à eux 5 aventuriers qui ont bien décidé d'écrire une nouvelle page de la légende.
Bon bref, générique. Et vous, cette pandémie, elle vous a déstabilisé personnellement ou...
Perso, non. Mais elle ne m'a pas déstabilisé parce que je viens d'une éducation qui a été copartagée par des gens qui sont nés au 19e siècle et au tout début du 20e siècle. J'étais dans un appartement où plusieurs générations se côtoyaient et moi j'ai connu des gens du 19e. Voilà, ça paraît étrange au 21e siècle de dire ça, mais c'est ainsi. J'ai été élevé par ces gens-là aussi. Et donc je dis ça pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont vécu la grippe espagnole, qui avaient vécu de guerres, qui avaient vécu des épidémies, qui en fait sans doute, à l'époque c'était inconscient de ma part, ont distillé dans mon esprit le fait que la vie était fragile, que la vie valait la peine d'être vécue parce qu'elle ne durait pas longtemps et qu'il fallait en profiter. Donc je n'ai pas...
Vous avez ça en vous?
Ah oui, clairement.
Ouais.
Clairement. Donc tout ça ne m'a pas donc déstabilisé puisque cette période n'a été que la confirmation de tout ce que j'avais entendu et de tout ce qui m'avait imbibé, même si je n'aime pas trop le verbe, mais qui m'avait imprégné en tout cas quand j'étais enfant.
C'est votre 18e saison, je crois bien à la présentation, Olivier Mine.
18e, oui.
Pas de lassitude?
Non, sincèrement, pour deux raisons. La première, c'est que je réinvente chaque année. Et puis, il y a aussi une donnée que les téléspectateurs ne peuvent pas toujours vraiment apprécier, c'est la relation qu'un animateur peut avoir avec la production et avec ses équipes techniques. Moi, je viens de la technique. Quand j'ai commencé il y a presque 34 ans, à la télévision, j'étais assistant cadreur, assistant déco, j'ai commencé comme ça. Moi, mes premiers potes, c'est pas la prod, c'est pas les dirigeants de chaîne, ce sont les manutentionnaires, ce sont les chefs éclairaux ou les éclairaux, ce sont les assistants cadreurs, voilà, c'est ça ma famille de départ. C'est pas les salons à Paris, voilà.
Bon, et puis présenter Fort Boyard, c'est pas la mine.
Sincèrement, prendre un bateau tous les jours pour aller tourner une émission de télévision, c'est suffisamment surréaliste pour ne pas lasser la personne qui se trouve dans le bateau.
Moi, j'ai fait ma petite blague, je suis contente. Olivier Mine dans Culture Média. On revient tout de suite, dans pas longtemps, je vous jure.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Fort Boyard sera bel et bien à la télé samedi soir. La saison est lancée et ça rassure dans ce monde très incertain. L'une des nouveautés de cette nouvelle saison, Olivier Mine, c'est l'apparition de cette espèce d'animateur télé caricatural, caricatural de perfection. Il s'appelle Cyril Gosbeau. Gosbeau, vous l'avez hein bah, vous renversez un peu, vous allez le trouver. Incarné par Cyril Ferraud.
Si tu n'as rien dans la tête, tu t'en prends plein la tête.
Voilà, il a l'air assez étincelant, non?
Il est étincelant, en effet. Il est remarquable en tout point, comme vous l'avez souligné. Cet animateur-là n'a aucun défaut, si ce n'est peut-être celui de se regarder davantage qu'il ne regarde ses candidats ou la caméra qu'il vise. Mais en fait, ce qui est très drôle avec ce que fait Cyril Ferraud dans l'incarnation de ce personnage, c'est que c'est une sorte de mise en abîme assez surréaliste de ce qu'est un animateur de jeu, un animateur de télévision certes, mais en plus un animateur de jeu. J'ai trouvé ça très bien.
Et vous en rencontrez beaucoup des comme ça pour de vrai.
Fort heureusement, en apparence, non. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont parfois très proches de Cyril Gosbeau. On ne donnera pas les noms, mais oui,
non, on a pas
j'en ai une petite liste quand même.
Ah,
oui.
C'est vrai
ouais.
Et alors
bah, et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous savez, c'est comme le cinéma, la télévision. Finalement, de ce point de vue-là, il y a un terrain commun qui est le mentir vrai. Il y en a quand même pas mal qui, dans nos métiers, arrivent à mentir vrai, donc à créer une façade, une apparence suffisamment plaisante et pour donner l'idée qu'ils ne sont pas si intéressés que ça par eux-mêmes, alors qu'en fait, c'est leur sujet principal.
Mais peut-être qu'il faut, non? Vous vous faites autrement?
Moi, c'est pas que je... Et attention, quand je dis ça, je ne les blâme pas d'ailleurs, parce que je pense que finalement, c'est important pour pouvoir résister dans ces métiers-là, à aussi avoir conscience de soi et à s'aimer. Moi, j'ai sans doute, et ça ne s'est pas vraiment plus que ça corrigé, j'ai toujours eu un peu de peine à m'aimer suffisamment et en tout cas à trouver que le sujet de ma personne était à ce point intéressant que je puisse m'y pencher moi-même. En fait, oui, je suis de ceux qui pensent que les autres sont plus intéressants que soi. Dans mon métier, pas toujours la meilleure des solutions pour durer.
Alors, Fort Boyard, c'est aussi l'émission des corps.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est très très physique. Ce sont les corps qui s'expriment. Il se trouve, Olivier Mine, que vous êtes confié dans l'équipe, le journal L'Équipe, sur le vôtre de corps, et j'ai trouvé ça très intéressant. À la télé, quand vous avez commencé, disiez-vous, donc c'était sur Antenne 2 et vous avez commencé comme speaker.
Speaker.
Hein, speakerine, mais en homme, à l'âge de 22 ans. Et vous dites, j'étais taillé comme un cure-dent.
Oui, 1m60. 61 kilos pardon, pour 1m91, c'est très 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 fin, très mince.
Et en quoi ça a joué sur quoi d'ailleurs? Sur le non-respect que vous projetiez ou...
Ce qu'il y a de certain, en tout cas, moins le corps d'ailleurs que le visage, qui était un visage d'un post-ado et qui, ce visage-là m'est resté pendant un long moment. C'est certain que oui, on donne moins de responsabilité ou en tout cas moins de crédibilité à quelqu'un qui semble être tout droit sorti du lycée, ou qui même semble être encore au lycée. Mmh. Donc voilà, oui, certainement.
Et 30 ans plus tard, vos mensurations?
Mes mensurations sont légèrement... Confinement en plus aidant, mes mensurations ont légèrement changé. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu malgré tout. Je suis à 94 kilos, donc j'ai perdu 7 kilos depuis 2 mois à peu près, mais... Oui, 94 kilos pour 1m90, parce que la bête se tasse, vous savez, c'est toujours la même chose. La gravité aidant. Mais donc voilà où on en est.
Et parce que aussi, depuis 20 ans, Olivier Mine, vous êtes tombé dans le sport. Je dis ça comme on dirait tomber dans la drogue, non?
On pourrait dire ça, si ce n'est qu'heureusement, ça n'a pas été à ce point addictif que je sois tombé dans le piège de, comment dire, il n'y a que mon corps qui m'intéresse, je vais essayer d'être le plus gonflé de moi-même ou le plus habité par moi-même en chair, possiblement. Donc je n'ai pas été dans tout ça, je n'ai pas pris de stéroïdes, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit lorsque mon corps s'est transformé. Je ne suis pas parti dans tout ça. En fait, et c'est ce que j'explique dans l'équipe magazine, je ne me suis simplement mis au sport que pour résister à la tentation de la dépression. Et en fait, je ne travaillais pas ce corps pour essayer de changer d'apparence. Ça n'est que quand je suis revenu à la télévision que j'ai senti que le regard des autres posé sur moi avait changé. Mmh,
ça a correspondu à votre traversée du désert.
Oui,
voilà.
Enfin, oui, on peut dire ça, tout à fait. Non, mais c'est
non,
vrai.
C'est vrai
non, mais c'est parce que le désert n'a pas été non plus extrêmement long.
Non.
C'était un an et demi à peu près.
Oui, voilà.
Il y a eu des déserts plus longs.
Le sport, vous avez commencé à le pratiquer à Los Angeles, je crois, où vous passez la moitié de votre vie, enfin en temps normal. Là, vous vous dites quoi? Que vous n'êtes pas prêt d'y retourner, hélas?
Non, j'y retourne demain.
Ah, mais comment faites-vous ?
Je repars demain. Le statut de résident permet de rentrer aux États-Unis. Ouais. Donc,
mais vous,
donc,
vous ne craignez pas d'aller en ce moment aux États-Unis ?
Écoutez, non, pour deux raisons. La première, c'est parce que je vais faire attention, d'abord. Et puis, deuxièmement, parce que, encore une fois, pour revenir à ce qu'on se disait sur est-ce que cette crise a changé des choses en moi, et que je vous répondais pas plus que ça, je suis bien conscient que, de toute manière, tout ça, voilà, sorti de ce qu'on peut faire, nous, à titre individuel, tout ça nous échappe, et que, voilà, s'il doit arriver une chose ou l'autre, elles arriveront. Et puis, c'est tout. Moi, je ferai de mon côté ce qu'il y a à faire, attention, et puis on verra bien.
C'est à LA, en tout cas, que se situe un hôtel assez mythique. Est-ce que vous connaissez Angus et Julia Stone ?
Non.
Eh bien, ce sont des frères et sœurs australiens, et ils chantent ça. Voilà Château Marmont, je vous recommande d'écouter ce morceau, il est très beau. Ouais. C'est l'endroit où se tient votre roman qui vient de sortir chez Séguier, il nous reste très peu de temps pour en parler malheureusement. Ce roman s'appelle Un château pour Hollywood, faits réels qui se sont produits dans ce château mythique et vous avez romancé dessus.
J'ai écrit une histoire, l'histoire d'un garçon qui s'échoue, car c'est vraiment ça qui s'est passé, qui s'échoue sur les collines d'Hollywood et puis qui finira par trouver refuge dans ce château. Et à partir de là, une rencontre improbable avec une ancienne star du muet, complètement déchue, va changer sa vie et la vie de la vieille dame aussi. Parce qu'encore une fois, les destins ne sont jamais linéaires. C'est tout l'objet de l'histoire de ce roman.
Mmh, c'est votre premier roman avec en exergue une citation du poète René Char. Je vous laisse dire.
Je ne la connais pas par cœur.
Ah bah je vais la dire alors. Il n'y a que deux conduites dans la vie, où on la rêve, où on l'accomplit.
Mais voilà. Et je pense que, c'est pour faire un clin d'œil à ce qu'est Hollywood, à ce qu'est le métier d'acteur, oui, certainement, et puis aussi un clin d'œil à la télévision.
Merci beaucoup,
merci
Olivier
Mine,
d'être venu dans Culture Média. Fort Boyard revient samedi sur France 2, 31e saison. Merci à vous. À tout de suite. Leur culture de Culture Média. Ne va pas tarder, Grand Corps Malade en est l'invité pour son album de duo Mesdames. Bonne matinée à vous, vous êtes sur Europe 1.
Tout savoir sur les services aux seniors avec La Poste. Vincent Deloge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de Veiller sur mes parents à La Poste. Alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, Veiller sur mes parents rassemble des services pour aider les personnes fragiles ou isolées.
Mmh.
En fait, pendant la crise sanitaire, il était évident pour La Poste de se mobiliser encore plus en mettant en place des offres à tarifs préférentiels.
Et que propose Veiller sur mes parents exactement ?
Un catalogue de services spécialement conçus pour les seniors. La téléassistance, pour joindre quelqu'un 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La livraison de repas, préparé par les diététiciennes de notre partenaire, Saveur et Vie. Un contrat d'assurance santé, ou encore Ardoise, une tablette pour rester connecté.
Sans oublier une visite hebdomadaire du facteur à domicile, je crois.
Oui, visite que nous avons rendue gratuite, une fois par semaine, et ce jusqu'au 31 août. Mmh. C'est important et c'est notre façon, à La Poste, de prendre encore plus soin de nos aînés, surtout en ce moment.
Effectivement, et c'est très utile. Merci Vincent Deloche.
Plus d'informations auprès de votre facteur ou au 0800 000 011, service et appel gratuit.
C'est le
Leclerc Live.
Les jeunes Français passeraient plus de 2 heures par jour sur Internet sur leur mobile.
À ce rythme-là, les portefeuilles déclarent forfait.
Pas forcément. Avec l'offre Réglo Mobile de Leclerc, c'est 50 gigas d'Internet par mois, appels, SMS et MMS illimités à seulement 9,95€ et sans engagement.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site.
Ah non mais franchement, la dinde, c'est bon tout le temps. On s'en lasse pas. Tu peux faire un sauté de dinde, une escalope de dinde, un rôti de dinde, des brochettes de dinde, un curry de dinde, de la blanquette de dinde. Moi j'adore la blanquette. Des
fricassés. Eh oui, la dinde de nos régions, c'est parfait pour une alimentation variée et équilibrée. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sur la route des vacances, vous garez votre Corsa neuve dans une station-service pour une petite pause. Et là, vous vous dites qu'on est tellement bien dans une Corsa neuve qu'on n'a pas trop envie d'en descendre. Partir en vacances, c'est bien. Partir au volant d'une Opel neuve, c'est encore mieux. Du 6 au 18 juillet, découvrez les offres prêts à partir sur nos véhicules en stock et partez au volant d'une Opel Corsa neuve à partir de 99€ par mois.
Location longue durée 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000€. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Bank et selon stock disponible. Détails sur opel.fr.
Il est 10h sur Europe 1. Voici les infos de Marguerite Lefèvre. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est un peu moins que ce qu'espéraient les médecins, un peu plus que ce que proposait le gouvernement au départ. C'est le jeu des négociations. Un accord a finalement été trouvé dans le Ségur de la Santé. 180 euros net par mois en plus sur le salaire des personnels hospitaliers. Voilà la base sur laquelle travaillent désormais le gouvernement et les syndicats. Une hausse en deux temps. La moitié dès le mois de septembre et le reste en mars 2021. Ça avance visiblement sur la santé. Dialogue beaucoup plus hésitant en revanche sur les retraites. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, était à Matignon ce matin. Il n'entend pas reprendre le dialogue. Les partenaires sociaux vont défiler aujourd'hui et demain dans le bureau du Premier ministre qui lui a mis les pieds dans le plat hier. Refuser de réformer les retraites, ce serait irresponsable selon Jean Castex, qui compte bien mener à son terme la réforme mise de côté pendant le confinement. Après, deux mois après le début du déconfinement, voilà que l'ombre de la seconde vague refait surface. Elle est de plus en plus évoquée par les scientifiques. Le coronavirus circule à bas bruit, assurait ce matin le professeur Éric Combes sur Europe 1. Le chef de service des maladies infectieuses de la Pitié redoute que la plus grosse partie de l'épidémie soit encore devant nous. La nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, promet un grand plan de relance pour le ferroviaire, outil de la transition écologique. Ce secteur ne doit pas payer les conséquences de la crise. Selon elle, pas sûr que cette déclaration suffise à rassurer les militants de l'ONG Greenpeace. Ils ont grimpé ce matin en haut de la grue installée au-dessus de Notre-Dame de Paris. Ils y ont déployé une banderole appelant le gouvernement à agir en faveur du climat. Pour l'instant, on a les grands discours, mais pas la politique, pas la politique d'urgence dont on a besoin. Voilà ce que dénoncent ces militants écologistes. Ils ont choisi donc Notre-Dame de Paris, dont on va entendre parler aujourd'hui. Les experts doivent rendre leur rapport, celui qui contient leur vision de la restauration. Comment reconstruire la charpente, la flèche à l'identique ou pas ? Réponse aujourd'hui, donc après un an de débat. À l'étranger, évidemment, ça ne plaît pas à la Chine. Pékin déplore ce matin l'attitude de l'Australie qui a manifesté tout à l'heure son soutien aux habitants de Hong Kong. L'Australie propose de les accueillir en élargissant les visas. Après la Grande-Bretagne, les pays du Commonwealth, les uns après les autres, volent au secours de cet ancien territoire britannique repris aujourd'hui d'une main de fer par la Chine. La bourse de Paris, dans le vert ce matin, plus 0,5%. Le CAC repasse au-delà de la barre symbolique des 5000 points. En football, les clubs de Ligue 1 seront fixés cet après-midi. On connaîtra le calendrier de la saison prochaine, journée par journée, avec pour commencer le programme de la journée de reprise qui débutera donc le 23 août prochain. La météo enfin, temps sec et chaud partout en France, sauf à la pointe de la Bretagne et sur le Cotentin, où il risque de pleuvoir un peu ce matin. Aujourd'hui, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Il fera cet après-midi 24 à Lille, 27 à Nantes et Rennes, 31 à Paris et Strasbourg. Et jusqu'à 37 degrés dans l'Aude. C'est
trop,
pas mal, hein ?
C'est trop.
Ah, oh, bah, faut savoir. C'est trop.
Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre. Vous êtes attendue à 11h pour les prochaines infos.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Connaissez-vous le duo qui cartonne en ce début d'été ? Plus de 10 millions de personnes ont déjà vu le clip de « Mais je t'aime » duo Camille Lelouch, grand corps malade. Le slameur, réalisateur et l'invité de Culture Média dans 10 minutes. Comment fait donc grand corps malade pour tout transformer en or ? Un indispensable qui promet, l'or d'Autriche assistait hier aux répétitions de la 7e de Beethoven à la Philharmonie de Paris. À la baguette, un nouveau chef d'orchestre finlandais de 24 ans, Klaus Mäkelä. Nous serons dans la coulisse, une heure culture qui, fort logiquement, commence par le journal de la culture. Belle matinée à vous sur Europe 1. Et bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Alors au sommaire, une journée décisive pour les Césars du cinéma, un nouvel album de Jeanne Hadid, un festival à 1400 mètres d'altitude, une nouvelle polémique pour Kanye West et le retour d'un chanteur énervé.
Et l'on commence donc avec ce vote crucial pour les Césars du cinéma français.
Oui, car les membres de l'Académie se prononcent aujourd'hui sur de nouveaux statuts et ceci afin d'instaurer plus de démocratie, plus de diversité et plus de parité. Alors en février, une tribune signée entre autres par Léa Seydoux, Omar Sy et Marina Foïs avait entraîné le départ du président Alain Terzian et la démission collective de sa garde rapprochée. On se souvient également de la volcanique soirée des Césars 2020 avec le départ d'Adèle Haenel. Et depuis, les esprits ne se sont pas vraiment calmés. Alors aujourd'hui, donc, deux projets seront soumis au vote. L'un est l'aboutissement d'un travail mené par le Centre National du Cinéma, à la demande du ministère de la Culture et de l'Académie. L'autre émane plutôt de l'équipe sortante. Mais tous les deux sont assez proches, selon Margaret Ménégoz, la présidente par intérim de l'institution. Alors, est-ce que les Césars vont faire leur révolution ? On en reparle très vite, évidemment.
La chanteuse Jeanne Haddad sort un nouveau disque demain.
Et un disque en partie en français, une grande première pour la chanteuse qui avait choisi jusqu'à présent l'anglais pour s'exprimer. C'est le titre de cet album, se compose de 8 morceaux. Il a été imaginé par la chanteuse comme une respiration, un moment de pause après ses 2 victoires de la musique et une tournée de presque 2 ans. Alors le style Haddad est toujours là, c'est poétique, c'est organique, c'est mélodique et sa voix est une fois de plus admirable. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait en anglais cette fois-ci.
L'album Air, Jeanne Haddad qui sort donc demain. Bonne nouvelle Damien, au moins un festival pourra quand même avoir lieu cet été.
La Grande Balade, c'est le nom de ce festival qui se déroulera les 18 et 19 juillet prochains à Annecy. Et ce sera en plein air, à 1400 mètres d'altitude. Un festival qui prendra la forme d'une randonnée, 3,8 km de parcours, accessible à tous. Donc environ 2 heures de pur bonheur pour votre corps et votre esprit. Alors concrètement, tout au long du week-end, des groupes de 10 personnes vont se succéder pour découvrir des musiciens suspendus dans les arbres, des concerts de clavecin dans les sous-bois, des spectacles de danse tout-terrain et des numéros de cirque assez spectaculaires. 100 artistes ont déjà répondu présents, parmi lesquels des grands noms de la danse et du théâtre, comme par exemple Philippe Découfflé ou Johan Bourgeois. Alors on prend l'air, on respire un bon coup et on file direct à Annecy.
On y va ?
On y va.
Ah ben non, on peut pas, on est à l'antenne. Aux États-Unis, Kanye West refait des siennes.
Oui, quelques jours après avoir annoncé qu'il était candidat à la Maison Blanche, le rappeur Mimi, mystico milliardaire Kanye West, refait parler de lui, mais cette fois-ci via sa société Yeezy, une entreprise spécialisée dans les paires de baskets.
Uh-huh, honey.
La société qui a engrangé des revenus estimés à plus d'1,5 milliard de dollars l'an passé vient de toucher des prêts gouvernementaux dans le cadre d'un plan de relance mis en place suite à la crise du Covid-19. Alors ces prêts, entre 2 et 5 millions de dollars, auraient permis la sauvegarde de 106 emplois chez Yeezy. Mais aux États-Unis, l'histoire fait polémique. Alors le rappeur refuse pour l'instant de commenter, mais il n'est pas le seul à être pointé du doigt. Le sculpteur Jeff Koons, un des artistes les plus cotés au monde, et la maison de mode Oscar de la Renta font également partie des bénéficiaires de ces aides gouvernementales. Alors, peut-on être milliardaire, avoir une entreprise florissante et demander des aides pour sauver sa PME ? C'est la question du jour, vous avez 4 heures.
Oh, une minute suffira. Et pour terminer, puisque vous avez vraiment insisté, voici le retour de Renaud.
Elle débarquait un jour de Chine, retourne-y quand il confine.
Une chanson surprise, et donc vous l'aurez compris, ces dernières semaines l'ont inspiré. Renaud n'a pas du tout apprécié la période du confinement.
Coronavirus, connard de virus, coronavirus, connard de virus.
Dans Corona Song, Renaud balance sur les chaînes info. Il regrette la fermeture des bistrots. Il tacle au passage Donald Trump et prend la défense du professeur Raoult. Dans le clip visible sur le net, le chanteur porte son iconique bandana rouge en guise de masque. Alors, ok, on va pas se mentir, c'est peut-être pas la plus grande des chansons de Renaud, mais bon, on garde une tendresse pour lui, et puis ça fait quand même du bien d'avoir de ses nouvelles.
Comme vous dites. Benoît Caprespine, à demain pour un autre journal des médias. Surtout restez là, car Grand Corps Malade ne va pas tarder.